Vous aimez le livre de la lecture, vous aimez votre littérature, l'introduction est à votre disposition, un éventail de livres de tout genre, pour vous aider à affiner votre littérature. Plus, romans, nouvelles, essais. Les livres de l'édition sont disponibles au Télibéry La Pléiade, à Bois-Bataclan-Pétionville, à Fissou-Barras et au fond local numéro 26 à Dermalite. L'introduction, littérature, culture, patrimoine.
Réveillez-vous sans un esprit, ce que la nourriture est au corps. Nourrissez votre esprit en écoutant tous les dimanches de 5h à 6h de l'après-midi, Livre 9 sur Magic 9 100.9 avec Guillaume son petit frère, Myrvin Pierre et Hébert Charles. Actualité sur les livres, débats, lecture critique, rencontre avec les auteurs, les amants et tous les professionnels de la chaîne du livre. Livre 9, c'est le livre dans tous ses états sur Magic 9. Livre 9, une émission conçue par la radio Magic 9 en partenariat avec l'association Lègue et Littérature.
La petite fille en elle, quand elle avait 9 ou 10 ans, et moi aussi, et que nous avions bu aux 3 poutres de Rome, qu'elle m'invitait à danser, et qu'elle redonnait tandis que nous dansions un boléro de Cuba, ruminant son chewing-gum, et qu'elle s'arrêtait un moment pour vous demander « C'est quoi, exaltation ?» Et nous allions consulter le dictionnaire avec une grande exaltation, sans une idée en cours de route. Non, elle venait consulter le docteur et je disais, fais rien, t'as la fièvre, fais rien. Et je lui prescrivais 3 baisers glacés. Nous frottions nos lèvres de glace pilée et je l'hospitalisais quelques minutes dans mon bras et mes mains battaient sous la robe en taffetas. Arrête, je prie. Nous rejoignions la fête, riche de nouvelles de légende pour le curé. Exalté sans avoir pu ce qui c'était l'exaltation. Jean-Claude Charles, extrait de Baboula et de Bamboula Bamboche, roman réédité dans la collection L'Intemporel en juillet 2007 aux éditions Presse Nationale d'Haïti. Je rappelle que Jean-Claude Charles est avec Jean-Claude de Signoli, l'un des plus grands écrivains de la littérature haïtienne, les deux gens, et puis surtout Jean-Claude de Signoli, l'un qui est pour moi, et personnellement, je ne sais pas si c'est également la vie de Hubert Charles-Émile Pierre, le plus grand écrivain vivant 1 de la littérature haïtienne contemporaine. Donc, parler de littérature haïtienne et ne pas parler de gens, de ces deux gens, et particulièrement de Jacques-Claude Pignol et Hubert Charles, c'est ne pas savoir de quoi on parle.
Il y a également de l'autre côté les deux
Jacques. Oui, Jacques. Et Jacques, c'était dans l'équipe. Et on, je pense à ce hommage rendu par Jacques, le Jacques porté disparu, hein? Le Jacques des romans de Tral, qui disait à propos de Jacques Romain, un pays qui vient de produire un Jacques Romain ne peut pas mourir. Donc voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Livre Neuf. Nous sommes le dimanche 25 septembre 2016. C'est le tout dernier dimanche du mois. Donc, Livre Neuf, le rendez-vous dominical avec tous ceux qui aiment les livres. Toute l'équipe est bel et bien présente pour vous apporter cette édition. À la technique, Willems Joseph, comme d'habitude. Et puis la présentation signée Myoline Pierre, Hubert Charles et moi, Jérémson Petit Père. Bonjour, bonsoir les amis. Bonsoir, Hubert.
Bonsoir, Jérémson. Bonsoir, Myoline. Bonsoir, Willems. Bonsoir à tous les auditeurs de la vie.
Bonsoir, Myoline Pierre.
Bonsoir, Jérémson. Bonsoir, Hubert Charles. Bonsoir, Willems. Bonsoir à tous les auditeurs et les auditeurs.
Alors, en ce qui a trait à la rubrique Actu Livre pour aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur deux événements et pour cette semaine. D'abord, il y aura à la Focale le 29 septembre 2016. Donc, le 29 septembre, ce sera le jeudi. Puis ce sera le jeudi. 29 septembre, donc, a signalé cette conférence, cette intervention du professeur Ilionor Lui, qui est professeur à la faculté d'ethnologie du Port-au-Prince. Donc, il prononcera une conférence autour du thème « L'homophobie affecte tous les âges ». Donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la première édition du festival Massi Madi. Donc, qui aura lieu à Port-au-Prince. Donc, la conférence est programmée et est fixée à 17h30 à la Focale. Et puis, une autre information pour clore le chapitre Actu-Livre, c'est une vente signature Orbi François qui signe son album, son tout premier album de texte chanté. Donc Herbi, comme Wooly Saint-Dujan qui s'est mis à chanter les poètes. Donc son album ayant pour titre Moins bien pour m'aller, donc il fait une vente signature à la bibliothèque de Araka. Et le Centre culturel Araka le samedi 1er octobre 2016 à partir de 15h. Donc la bibliothèque Araka se trouve au numéro 206 de la rue de l'Enterrement, juste à côté du cimetière de Port-au-Prince. Place à présent à Robert Charles pour sa chronique.
Dialogue de soi à soi, devant le miroir face à la noirceur de son ombre, est-il toujours d'occuper sa semblance, un peu pour amadouer la mort qui se cherche dans le morcellement de sa propre qui s'intéresse de passer pour lui apparaître. Bien heureux celui qui se trouve de trouver un peu de tard, car il verra Dieu deux fois, et se veut de lui dire de lui, seul le poète comprend le monde et arrive à le dire, dans toute sa place, sa splendeur, lui seul sait plonger dans ses temps de telle travail, tout à fait l'heure, sans tout passer. Marc Xavier est un des bons cas d'une version surréaliste de Baudelaire, de Carbois, de l'amant de l'éclat forte, qui cherche dans le monde un livre de pays de Copagne, de tous nos pauvres et de tous, vite, calme et réussi. J'ai peur de danser sur la pluie, pour ne pas salir mon ombrage. Dans la salive de trop rêveurs, tout le regard qui me regarde établit sa transparence de ma vie nouvelle. Peut-il toujours découper sa semblance dans l'étroitesse des miroirs, j'invente les gestes qui me fâchent, durant à la mort sa carrière. La liberté n'a pas de prix. Voilà un poème de Marc Xavier, qui en 2005 de son lettre personnelle. Merci Médor sur ce beau texte, sur ce poème que j'ai entendu de Marc Xavier, tiré de Chanson pour un Madrid et la mort, Marc Xavier, hier. Donc on a parlé tout à l'heure de Jean-Claude Pignolet comme étant le plus grand, pas l'un, hein, le plus grand, j'ai bien dit, le plus grand écrivain de la littérature haïtienne contemporaine. Je sais qu'il va pouvoir une multitude, disons, et une mûre à ce sujet, mais on prend la liberté. Voilà, autant. Voilà. Donc, Marc Xavier, qui est également pour moi une bibliothèque ambulante, c'est l'un des plus grands connaisseurs, si ce n'est le plus grand connaisseur de littérature et que nous avons eu dans ce pays. Donc, il faut apprendre à rendre hommage aux vivants. Donc, comme tu viens de le faire, et dimanche dernier, tu as parlé de mort. C'était Gary Augustin. Et aujourd'hui, un vivant. Donc, la chronique passe de mort à un vivant. J'espère que ce ne sera pas une chronique mort-vivant dimanche prochain. Place à présent à Mireille Pierre pour le livre de la semaine.
Bonsoir tout le monde. Je partage la base d'un texte qui a petit combattant, trouvé dans le collectif Un livre à l'époque de l'homme, nous dit que le livre n'est pas un livre, ni une stratégie d'intellectuel, ni l'expression d'un snobisme. Ce qui pourrait amener le faire voir comme des critiques, imbéciles ou encore plus graves, des esprits malins et espérants et stratégiques nouvelles. En fait, la rubrique Le livre de la semaine qui s'invite tout à l'heure en vous proposant un livre. Un auteur tous les dimanches vous a montré que la lecture n'est pas l'esprit de service ou du livre, comme l'ont fait croire la plupart des gens de la société et elle ne sera jamais. Au contraire, elle va être l'esprit sous toutes ses formes. Ce soir, j'ai pris tout le plaisir à partager avec vous ou à suggérer de lire le livre La danse sur le volcan de la romancière Marie Sauvette. La danse sur le volcan est le deuxième roman de Marie Sauvette, publié pour la première fois en 1960 par le éditeur Plon à Paris et réédité à plusieurs reprises et la dernière date de 2016 par l'imprimeur en Haïti avec une préface de l'écrivain de l'Inde. Ce roman raconte sur un fond historique, soit à l'époque coloniale, l'histoire de deux jeunes filles, Ninette et sa sœur Lise, deux chanteuses à talent vivant dans la colonie sénégalaise, qui arrivent à transporter cette société pleine de préjugés de toutes sortes, qui pensaient qu'elles vont grave de l'existence aussi. Mais tout n'est que faux semblant. Car, dès leur naissance, la société les catégorise et seul un miracle pourrait les trouver un nouvel statut. À travers la danse sur le volcan, on remarquera que Marie Sauvette va faire une nouvelle plaidoirie pour une société juste et équitable, afin que tous les Haïtiens puissent vivre dans l'amour de l'entente et la fraternité. Donc, ce roman est fait apparaître les racines de nos préjugés de couleur tout en étant battant. Voilà ce qui va faire à notre visite de la semaine. Je vous donne rendez-vous pour notre présentation de notre roman de Marie Sauvette. Bon dimanche et bonne journée. Thank you.
Voici la danse sur le volcan de Vingt-Vieux-Forêt, donc roman historique sur la société, sur la situation et disons des gens de couleur. Et à l'époque de la colonie de Saint-Domingue, donc une plongée, disons, dans cette société. Donc, merci pour ce retour sur ce livre combien palpitant. Donc ce roman, il faudrait à mon avis lire Robert Charles sans poser café. Alors, mon bonheur depuis notre retour, on ne parle pratiquement que de revues, donc c'est le temps des revues et à Port-au-Prince des revues, et bien il y en a de tout genre et ça se multiplie, ça se multiplie et ça fait un bon bout de temps je pense à un écrivain qui a dit en une fois que les revues à Port-au-Prince ont toujours eu la vie dure, comme si les revues existaient et n'existaient qu'en l'espace de 2 à 3 numéros, et puis après, c'est le silence complet. Mais depuis quelques temps, on assiste à un croissement de revues qui soient littéraires et scientifiques, historiques dans le pays, et les revues tiennent tant bien que mal la route. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de parler dimanche dernier, on a parlé de la revue 360 avec deux jeunes, Maddy Chalmers et Carson Dorsey. Donc de théorie de littérature. Aujourd'hui, on va parler plutôt des sciences, si on peut le dire ainsi, puisqu'on va parler de la revue Chantier, qui est une revue des sciences humaines et sociales, créée par l'Université d'État d'Haïti. Ils ont déjà publié 2 numéros. Et le troisième, je suppose, est en préparation. Et bien aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Livre Neuf Nixon Calix et puis James Saint-Cyr, qui sont deux professeurs à l'Université d'État d'Haïti et également deux responsables de la revue, sont les éditorialistes de la revue Chantier, donc à qui nous disons bonjour, bonsoir et bienvenue, messieurs. Bonsoir et James.
Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quel objet il faut dire. Et je tiens à saluer ainsi que mon collègue Nixon. Et merci pour l'invitation.
Merci, bonsoir, Calix. Chantier, donc chantier, est-ce que c'est dans le langage courant, et quand on dit chantier, on voit, disons, il y a un édifice qui est en pleine construction, ou du moins ce qui est en partie. Est construite, où on met des morceaux pour pouvoir l'ériger. Voilà, donc chantier, parler du chantier, parlez-nous un peu de ce que ça vient, l'idée de cette revue et aussi de l'histoire de ce nom.
Au grand public son premier numéro en octobre
octobre, le premier numéro était consacré à la thématique reconnaissance et politique. Et ce deuxième numéro, c'est sur la piste des savoirs locaux. Donc, on va y arriver, mais nous sommes Calix. Vous êtes aussi derrière et tout ça. Parle-nous un petit peu, même si je viens de nous faire un peu de spécificité de la chose. Et bien, cette revue, donc ça a pris le projet, octobre 2019-2014, la présentation du premier numéro. Donc 15 ans déjà, et depuis, donc les personnes qui font partie de ce projet.
Si tu permets de l'ensemble, je commencerai pour le commencement. Tout à l'heure, vous évoquez le nom de la revue. Je vois que ce nom porte d'abord une promesse. Une promesse là, qui nécessite évidemment des choses, des choses, des interactions, des signalations, tout ça. Qui cible un objectif et qui doit aboutir à quelque chose de durable pour la communauté. Quelque part, ce que Audin Charles disait tout à l'heure de chantier, c'est un peu ça aussi, parce que dans le chantier, il y a en particulier de modestie. Autrement dit, le chantier, c'est bien ça, c'est-à-dire une pierre de touche, quelque chose qui aide à perfectionner, à improviser et à valider. Autrement dit, le chantier reste vraiment et fortement dans le registre universitaire académique. Et scientifique, qui veut que le savoir pour avoir un minimum de valeur doit être éprouvé, vérifié et validé. Donc la vérité ne se proclame pas, ne se cloisonne pas. Le chantier, ce n'est pas un organe de vérité. Le chantier, c'est l'espace où chacun dépose sa proposition déjà hors devant un comité qui évalue. Et ensuite, devant la communauté universitaire et scientifique en général, qui va, à travers des lectures, s'approprier ou discuter les propositions.
Tout à fait, parce que ça, là, c'est l'une des méthodes en recherche, de la recherche scientifique, mais aussi scientifique, ça peut être un projet d'ampleur aussi.
Et oui, en fait.
Parce que tu as parlé de modestie.
Oui, parce que le chantier, fondamentalement, vise un objectif de perfectibilité. Là, nous en sommes au début. Un début assez encourageant déjà, mais le chantier, qu'est-ce que ça doit devenir? Ça doit devenir une revue de rencontres soutenue par un comité international où les chercheurs qui ont l'occasion de s'y faire publier. Et acquérir assez de métier et assez de visibilité pour se faire publier à eux aussi, parce que la réalité de la science ou de la recherche ne se cantonne pas dans une université aussi bonne qu'elle soit, est un phénomène mondial, ça participe d'un brassage.
Alors, et quels sont les. Vous pouvez commencer par m'expliquer des noms, il y a quand même. Qui est derrière tout ça, mis à part lui qui porte le projet?
Bon, ce qu'il faut dire par rapport à chantier, c'est que on s'est rendu compte du fait que ça va être un petit peu difficile de mener chantier à deux. Donc, on a fait appel à différents professeurs. Donc, pour chantier, il y a, il faut compter à peu près 4 comités. Comité de rédaction, il y a le comité de coordination avec un représentant par faculté dans le domaine social et social, et il y a un comité éditorial qui voit le jour en fonction de la thématique qui sera abordée.
beaucoup de renouvellement, on n'avait pas encore constitué le comité de lecture, mais les prochains numéros, vous trouverez un comité de lecture composé de professeurs de l'Université d'État d'Haïti, ainsi que de partenaires étrangers, américains, canadiens, français, qui vont faire partie de cette aventure.
Publication est importante pour les chercheurs. Comment vous faites pour recevoir les contributions? Est-ce que le chercheur envoie son texte si le thème est connu, ou je ne sais pas, ou est-ce que le chercheur signale uniquement un texte quelqu'un et vous occupez de la catégorie dans laquelle vous avez placé le texte, si vous avez publié dans un numéro en cours ou dans un prochain numéro?
Les numéros publiés jusqu'ici et les trois autres, puisqu'il faut les éviter, que nous avons en préparation, sont tous des numéros thématiques. Au départ, il y a un appel à la contribution, un appel qui peut être cité, mais qui peut être diffusé de manière large aussi. Par exemple, pour le premier numéro, l'appel a été restreint. Pour le troisième ou quatrième numéro, on ne sait pas encore, mais qui concerne les ONG, il y a un appel qui a été publié dans des organes internationaux, notamment dans la Canada. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui se sont manifestés, il y a des propositions, voire des contributions finalisées. Qui nous sont parvenus dans ce bien-là. Et puis, il y a aussi, ça c'est le cas du deuxième numéro, les projets institutionnels. Par exemple, quand on organise un colloque, il faut bien trouver un organe où, après le travail social, partager les résultats avec la communauté. Donc, c'est ainsi qu'on a des numéros sur les travaux. Et qui viennent d'un mois d'activité qui se continue en 2013.
Publier dans une revue scientifique, qu'est-ce que ça demande pour un universitaire, un chercheur, quels sont les critères pour publier dans un numéro de la revue scientifique? Est-ce qu'on doit être docteur, doctorant
Il faut dire que la condition est pâle.
De faire partie de l'URS
non, pas du tout. À chaque numéro, il y a des personnes qui n'appartiennent pas à l'URS qui publient dans la revue. Et nous avons même un numéro en préparation où nous avons beaucoup de contributions qui nous viennent de l'étranger et qui accentuent l'ambition internationale précoce de chantier. Je dirais que les paramètres importants pour nous, c'est d'abord la rigueur, autrement dit, il faut qu'on ait quelque chose qui soit coulé dans la forme, avec un certain langage, etc. Et puis la pertinence aussi. Maintenant, comme c'est une revue qui a une ambition scientifique, ça veut dire que c'est une revue qui entend surtout publier des résultats de recherche. Autrement dit, les publications qui nous arrivent, en tout cas qui arrivent aux lecteurs à travers Chantier, c'est des publications qui découlent le plus souvent d'un processus de recherche de la part de chercheurs qui sont affiliés à des laboratoires ou qui sont dans une démarche plus personnelle. Mais Chantier entend rester dans un peu carré académique fondamentalement, indépendamment du grade ou des alliances en termes de pôle.
Du contributeur. Du contributeur. Alors,
il y a le réseautage aussi. C'est beaucoup appel, c'est extrêmement difficile des fois de
directement à des collaborateurs,
des professeurs connus. On connaît. Non, c'est pas qu'on commande des textes, on leur demande s'il y a des sujets
qui les intéressent,
ce qu'ils pourraient éventuellement mener un numéro. Donc, c'est le cas avec Marc Fouleur, c'est le cas avec la demande à Lévis Corpus, à professeur Renaud Bourin. Donc, je les appelle, je leur dis, voilà, et par rapport à
leur champ de recherche.
Par rapport à votre champ de recherche, et puis par rapport aussi, nous, au sein de la direction de la recherche, on aimerait pouvoir publier deux numéros par an. Donc, ça nous met un peu la pression. Il y a le réseautage aussi qui compte beaucoup dans ce cas.
Tout à fait, oui. Et j'allais arriver sur la question de la périodicité et de la revue, parce que je me rappelle avoir vu que c'est une revue semestrielle, mais vous prenez beaucoup de temps. Et ça ne rentre pas vraiment dans le calendrier, ce qui est à la base de tout ça. 2015, vous avez lancé le premier numéro, et puis, donc, c'est ça, 2015, et puis aujourd'hui, le deuxième, et donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, ou qu'est-ce qui se passe?
Je dirais, on peut aborder cette question de plusieurs façons, mais moi je dirais, en tout cas, de mon point de vue, ce que j'ai constaté, c'est. Par rapport à l'autre numéro qu'on devait avoir, on a eu un problème par rapport à la création du comité de lecture. C'est-à-dire que les coordonnateurs de ce numéro ont exigé à un moment qu'on mette en place un comité de lecture pour pouvoir publier ce numéro. Ça nous a mis en retard pour la publication de ce numéro. Autre chose qu'il faut noter, c'est la crise qu'il y a eu juste après. Donc, on part de cette situation, on tombe dans la crise, donc ça ne nous a pas du tout aidé. Mais je reste confiant car j'ai eu mes collègues pas longtemps au téléphone. Il y a deux numéros qui sont en train d'être finalisés. Donc, j'espère, en tout cas, nous espérons, avant la fin de l'année, avoir les deux numéros pour l'année 2016.
Oui, en 2016, j'ai préparé deux numéros parce que les thèmes sont connus, parce qu'on reçoit toujours des textes, parce que à tout temps, on va
en avoir. En fait, c'est pour les numéros qui sont les plus avancés, c'est des numéros quasiment achevés. On a un numéro qui va être consacré aux bandes à pied. Et pour ce numéro, nous avons toutes les contributions. Maintenant, ce qui est à finaliser, c'est la partie éditoriale, d'autres choses annexes. On a un numéro qui va porter sur les ONG, tout ça. C'est un numéro avec des contributions qui commencent à nous parvenir, finalisées comme je le disais tantôt, et d'autres qui sont.
C'est moi-même, je suis dans le sommaire. Est-ce que à chaque thème que la structure change? Par exemple, moi, j'ai l'étude de la discipline, la moyenne, la création de la discipline, le commun, le doyen.
En fait, la structure de la table des matières dans un chantier, c'est pas dans un magazine.
Où
pratiquement chaque rubrique est figée, disons qu'il s'agit de numéros thématiques. Et les contributions, on ne peut pas les mettre pêle-mêle dans le numéro. Il y a des rapprochements à faire à côté, et ces rapprochements se matérialisent pour la place d'occuper les articles et donc pour les regroupements qu'on trouve au niveau de la table des matières. Et donc, comme tous les numéros ne portent pas sur la médecine traditionnelle, probablement il y a des énoncés qu'on ne va pas voir dans les prochains numéros. Donc, à chaque fois, ça dépend du travail éditorial du professeur.
l'heure, toute l'équipe est en charge de l'université.
Tout à fait. Et donc, la revue, je dirais, peut faire suite un peu à mes matières. Donc, les textes sont regroupés par sous-thème. Donc, à côté, il y a un sous-thème, en fait, juste avant, les propos de l'ancien vice-recteur à la recherche. Hein, c'est ça, j'ai bien dit que des hommes, à l'époque, ils étaient vice-recteurs et à la recherche, c'est ça. Il y a une sous-rubrique sur la médecine traditionnelle, la mort et les rêves, ensuite jeux, récréation et puis tradition, une autre rubrique sur l'économie informelle et puis droit et civique. Donc c'est-à-dire donc, il y a une structure, donc les textes ne sont pas présentés pêle-mêle et comme ça, et comme tout l'a souligné Calixte. Donc on va parler du contenu un peu de la revue, mais c'est juste après cette pause musicale de Bookman.